France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un salon de l'agriculture, 100 vaches fin février, une première. Annonce faite ce matin comme un symbole de la crise agricole et c'est en raison de la dermatose nodulaire. Pourtant, les autorités, elles, avaient donné leur feu vert, explication dans un instant. À suivre encore un village de Corse, Véro, au lendemain de l'assassinat de l'ancien leader nationaliste Alain Orsoni, lors des obsèques de sa mère. Les enquêteurs en ce moment à la recherche du moindre indice, nous y serons. L'ouverture du procès en appel de Marine Le Pen et des cadres du Rassemblement National, dans quelques minutes. Ils sont suspectés de détournement de fonds publics. Nous irons au palais de justice de Paris. Et puis une révolution dans notre démographie. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
L'an dernier, pour la première fois depuis 1945, plus de décès que de naissances dans notre pays.
Oui, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Et pour la première fois, il est négatif. Ce sont les chiffres de l'INSEE qui nous le disent.
69,1 millions de personnes vivaient en France au 1er janvier, toujours selon l'INSEE. Et justement, à partir de 13h30, nous parlons du recensement qui débute après-demain dans 8000 communes de France, 9 millions de personnes concernées. Peut-être vous, donc appelez-nous pour vos questions, 01 45 24 7000. Sans oublier la situation en Iran et les menaces américaines contre l'un de ses partenaires commerciaux principaux, c'est la Chine. Et puis cette balade d'un grand-père et de son petit-fils qui se termine par une découverte archéologique rare. Nous irons près de Toulouse. 13h50, c'est la France. Des cabines de téléconsultation ouvrent un peu partout. Est-ce une solution au manque de médecins? Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Mathilda May demande Marvin Gaye. Elle l'a découvert à l'adolescence en faisant ses courses.
J'entends un rythme qui me prend et vraiment, moi, j'étais en transe toute seule dans le Monoprix. Je suis entrée en religion, quoi. Soul funk.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Elles ne seront même pas sur l'affiche. Les visiteurs du Salon de l'agriculture, dans un peu plus d'un mois à Paris, ne verront aucune vache, pas plus que des taureaux, des veaux ou des génisses. Aucun bovin cette année en raison de l'épidémie de dermatose bovine nodulaire. Le président du Salon, Jérôme Dépé.
C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime devant vous, puisque je l'ai toujours dit que je respecterai nos éleveurs. Après les avoir écoutés, j'ai pris donc la décision qu'il n'y aurait pas, pour la première fois dans l'histoire du Salon international de l'agriculture depuis plus de 60 ans et dans les 136 éditions du concours général agricole, qu'il n'y aurait pas de bovins cette année au Salon international de l'agriculture.
Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est vous qui avez suivi cette annonce ce matin. Ce qui peut surprendre, c'est que les autorités sanitaires, elles avaient donné leur accord.
Oui, effectivement, tout était préparé pour éviter les risques. Protocole sanitaire renforcé du départ de la vache jusqu'à son arrivée au salon et son retour chez elle. Sauf que voilà, hier soir, les 28 organismes de sélection, celles qui choisissent donc les vaches, ont toutes pris la décision de ne pas envoyer leurs bovins au salon. Alors elles ont refusé pour deux raisons. Par peur de la contamination, on ne va pas faire monter nos vaches à Paris et prendre le risque qu'elles tombent malades, ou tout simplement par solidarité, car 85% des bovins qui devaient venir étaient en zone indemne. On respecte leur décision, assurent donc les organisateurs, qui ne comprennent pas en revanche l'appel au boycott venant d'autres secteurs. Déjà plusieurs annonces, pas de moutons charolais cette année, pas de chambre d'agriculture des Ardennes, comme pour envoyer un signal fort au gouvernement. Mais boycotter pourquoi, répond le président, le salon n'appartient pas à l'État, donc aucun intérêt. Vous l'avez compris, pas de bovins donc cette année, même pas l'égérie, la vache Big In, venue exprès de Martinique. Il va d'ailleurs falloir changer les affiches parce que c'était elle qui était dessus. Et la vache sera remplacée par un slogan. Venir, c'est soutenir, car les organisateurs le savent. Beaucoup de visiteurs viennent au salon, surtout pour voir les bovins.
Merci Lou Bourdi pour ces informations. Pendant ce temps, le syndicat agricole FNSEA, lui, a fait venir 350 agriculteurs et leurs tracteurs dans le centre de Paris. Stationné devant l'Assemblée nationale, le président du syndicat Arnaud Rousseau sera reçu à 14h par le Premier ministre. Ailleurs en France, le barrage de l'A64 en Haute-Garonne est en train d'être levé. Près de La Rochelle, les forces de l'ordre sont intervenues ce matin pour débloquer le dépôt pétrolier de la Palisse. Quand dans le Tarn-et-Garonne, ce sont les dégâts causés par ces actions à Montauban vendredi qui font réagir. Le siège de la Mutualité sociale agricole dans le département a été saccagé. Déversement de déchets à l'extérieur, projection de lisier à l'intérieur. Incompréhensible pour Stéphanie Chrétien, secrétaire nationale à la CFDT Agri-Agro, le premier syndicat à la MSA.
Ce qu'on oublie derrière, c'est qu'on a des salariés qui travaillent dans ces locaux et qui ne sont pas responsables de la situation du monde agricole. La MSA n'a rien à voir avec la réglementation sur la maladie actuelle des troupeaux, donc il n'y a pas de raison au niveau de la MSA. Ils sont plutôt là pour accompagner justement les exploitants agricoles dans les difficultés qu'ils ont pour voir comment mettre en place des facilités de paiement, des ajournements, pour les accompagner dans leurs difficultés et de voir comment ils peuvent être là à leur service. Donc c'est totalement incompréhensible de venir taper sur la MSA. Et là, on est vraiment dans la sidération, la stupéfaction, de l'incompréhension des salariés des MSA. Ils ne comprennent pas pourquoi on s'en prend à eux alors qu'ils font le maximum pour justement être au service des exploitants agricoles et du monde agricole en général, y compris les salariés.
Témoignage au téléphone d'ICI Occitanie. Vinci, de son côté, annonce une facture de plusieurs millions d'euros pour remettre en état ces autoroutes du Sud-Ouest. À la une également de l'actualité aujourd'hui, la traque en Corse après l'assassinat hier de l'ancien leader nationaliste Alain Orsoni, revenu du Nicaragua où il vivait dans son village d'origine de Corse du Sud pour y enterrer sa mère. Il a été tué durant les obsèques par un tir à distance. Les dernières valeurs sacrées ont été anéanties, écrit ce matin à sa une le journal Corse Matin. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu ce matin à Véro où l'assassinat a donc eu lieu. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au nord d'Ajaccio. Qu'avez-vous vu ?
Bien, par exemple, le monument aux morts avec en toile de fond le clocher, la baie d'Ajaccio et les sommets enneigés sur lequel il y a 6 Orsoni. Les 400 habitants ici sont soit plus ou moins de la famille, soit proches de la famille. La mère du village, lointaine parente, s'appelle Marie-France Orsoni. Elle décrit l'atmosphère.
La sidération, un crime, un meurtre dans un... On dit en Corse, au Camposante. C'est un lieu saint. Ça, c'est de l'inédit, on n'a jamais vu ça en Corse. Nos valeurs s'envolent. Et essayez de comprendre qu'aujourd'hui, on est vraiment sous le choc. Respectons le deuil de la famille aujourd'hui.
De fait, ce que l'on croise disent, vous savez, vous ne trouverez personne pour vous parler. Il n'y a bien que cette retraitée Françoise sortie promener son chien pour avouer son sentiment.
On a peur, quoi. Enfin, moi, j'ai peur. De se promener dans le village, on se dit qu'on n'est pas rassuré, quoi. Non, c'est abominable.
Une camionnette blanche s'arrête près de la maison où vivaient Marinette Orsoni et son fils Alain quand il était en Corse. Deux hommes viennent présenter leurs condoléances. De la fumée s'échappe de la cheminée. Près du portail, un drapeau à tête de mort et une plaque en hommage au frère Guy, lui-même assassiné en 83.
Et dans le cimetière de Véro, Simon, vous avez vu ce matin des enquêteurs à pied d'œuvre.
Des gilets siglés police judiciaire ou police technique et scientifique entre les stèles et les croix disposées en terrasse au cœur d'une forêt de pins. Certains policiers sont sur les marches à l'endroit même où Alain Orsoni est tombé près du caveau de sa mère. D'autres en surplomb et à plusieurs dizaines de mètres de là entre les arbres tentent de comprendre l'angle du tir.
Au-dessus de vous je pense. Eh, vous êtes trop sur la même ligne là.
Il faut trouver la trace du tireur, manifestement professionnel vu la difficulté et la précision du coup mortel, et comprendre surtout par où il a pu s'échapper. Et puis un policier confie hors micro son inquiétude pour la suite. Plus aucune règle, plus aucun code, un cap est franchi dans la violence.
Simon Le Baron, en direct de Véro, en Corse, avec les moyens techniques de Laurent Maquetti. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Service police-justice de la rédaction de France Inter. Simon Le Baron nous décrit le travail des enquêteurs en ce moment, et on l'a entendu, il y a des enquêteurs spécialisés, Emmanuel, dans les dossiers corses.
Ah, depuis l'assassinat du préfet Erignac en février 1998, les équipes d'enquête ont été sérieusement renforcées localement à Ajaccio, Bastia, régionalement à Marseille avec la police judiciaire, et puis au niveau national nationale, puisque vous avez deux groupes d'enquêteurs spécialisés à plein temps au sein de l'Office central de lutte contre le crime organisé. 25 enquêteurs au total, deux groupes criminels et financiers. Vous avez aussi des groupes d'enquête de la gendarmerie, évidemment. Après, cela n'a pas empêché durant de longues années des guerres entre services, y compris entre la police nationale et les services de renseignement intérieur, surtout à l'époque de Bernard Squarcini, soupçonné durant des années d'avoir protégé Alain Orsoni. Il y a eu aussi plusieurs affaires de fuite retentissantes avec des compromissions, notamment d'un brigadier à Ajaccio, délégué syndical soupçonné d'avoir été proche de la bande du Petit Bar, dont plusieurs membres ont été poursuivis pour plusieurs assassinats et tentatives, dont celle contre Alain Orsoni en 2009.
Pour revenir à l'enquête elle-même, Emmanuel Leclerc, et au fait, ce qui frappe, je reprends un mot employé par Simon Le Baron à l'instant, c'est le professionnalisme du tireur.
Un pro. Évidemment, nous disait hier soir un officier du ministère de l'Intérieur, avec un mode opératoire qui rappelle plusieurs assassinats ces dernières années en Corse. Nous confiait ce matin un ancien chef d'enquête sur ces dossiers, dont certains concernaient des proches du fils d'Alain Orsoni, qui est actuellement en prison. Des tireurs embusqués à plus de 100 mètres, avec fusil de chasse à lunettes, mais aussi des armes de guerre. Le souci dans ce genre de meurtre avec des tireurs d'élite, c'est qu'ils laissent rarement des traces sur leur pas de tir, mais c'est arrivé.
Emmanuel Leclerc, c'est l'affluence des grands jours en ce moment sur l'île de la Cité à Paris. Tribunal judiciaire historique, car dans quelques minutes va s'ouvrir le procès en appel de Marine Le Pen, de son parti et de plusieurs de ses cadres. On leur reproche d'avoir détourné l'argent du Parlement européen pour financer le parti, ce qui avait valu à Marine Le Pen en première instance au printemps dernier, une condamnation, 4 ans de prison, dont 2 fermes, plus 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, c'est-à-dire l'impossibilité pour elle de concourir à la prochaine élection présidentielle. Elle joue donc son avenir politique dans les prochains jours. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous êtes sur place et cet enjeu explique la foule autour de vous.
Oui, foule des grands jours, vous l'avez dit, des centaines de journalistes, une file d'attente du public qui s'est allongée d'heure en heure. Place désormais à l'arrivée progressive des prévenus. Ils ne sont plus que 12 en plus du parti Rassemblement National, la moitié par rapport au premier procès. Mais les principales figures du parti sont là. Marine Le Pen, Louis Alliot qui est entré le premier dans la salle d'audience. Julien Odoul, Nicolas Bay déjà installé lui aussi, qui tous jouent leur mandat en cours ou à venir. Maire, député, eurodéputé. Et évidemment, la candidature à la présidentielle de 2027 pour Marine Le Pen. Candidature qui ne sera possible qu'en cas de relax à l'issue de ce procès ou de condamnation à une peine d'inéligibilité de moins de 2 ans. Les autres scénarios l'en empêcheront en revanche. Alors, pour tenter de l'éviter, on s'attend à une inflexion dans la ligne de défense, plus de droits, moins de politique. Et même si Marine Le Pen prévoit d'être assidue à cette audience, ses avocats devraient prendre une part plus active dans les débats. Ses avocats, car cela fait partie des nouveautés. L'équipe de défense s'est étoffée de nouveaux profils pour faire face à des magistrats, eux aussi différents. Nouvelle présidente, nouveaux assesseurs. Bref, comme pour tout procès en appel, on repart à zéro.
À vos côtés, Charlotte, je voudrais saluer Lise Rosveil, notre journaliste qui suit le Rassemblement National. Bonjour Lise.
Bonjour.
Lise, au-delà de Marine Le Pen, ses proches craignent qu'une nouvelle condamnation ne marque en fait la fin d'un monde avec la prise de pouvoir de Jordan Bardella.
Tous ses fidèles, oui, ça court à l'Assemblée nationale qui lui doit tout et ne jure que par elle. Si Marine Le Pen n'est plus la candidate à la présidentielle, c'est leur boussole qui perd le nord. Jordan Bardella est bien le président du RN, mais la vraie patronne reste elle. Officiellement, les élus répètent qu'ils ont un duo de candidats, que c'est une chance. Même les plus critiques envers Bardella s'adoucissent, conscients qu'il faut préparer leurs arrières. Mais en petit comité, un député insiste, les deux ne sont pas interchangeables. Au-delà de l'expérience, des compétences, les proches de Marine Le Pen la trouve plus chaleureuse, spontanée. Et l'entourage de Jordan Bardella est jugé très fermé. Un proche de Marine Le Pen le confie « Si elle n'est plus candidate, je suis le premier à être éjecté du navire ». Alors certains se persuadent que leur championne resterait la conseillère numéro 1 de son dauphin. Rien n'est moins sûr. C'est en tout cas une nouvelle preuve de leur fébrilité. Ils ne peuvent pas imaginer le parti sans elle.
Lise Rosveil et Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Pour tout savoir sur ce procès, je vous renvoie à notre long dossier hier à 13h30. Il est disponible en réécoute sur le site de Radio France. Et puis on a appris ce matin la date des obsèques de Roland Courbis, mort hier à l'âge de 72 ans. Elles seront célébrées demain à l'église de la Madeleine à Paris. Un hommage lui sera également rendu samedi à Marseille.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Derrière ces chiffres se profile un bouleversement majeur pour notre pays, avec des conséquences à tous les niveaux, pour les familles, pour les entreprises, pour les écoles et j'en passe. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, en 2025, il y a eu plus de décès que de naissances dans notre pays. Les courbes se sont croisées, on avait eu de premiers indices ces derniers mois, mais l'INSEE, qui fait foi en la matière, l'a officiellement annoncé ce matin. On vous retrouve, Alice Cachaner. Avant d'écouter votre reportage dans une minute, vous allez nous emmener dans une famille qui veut s'en tenir à un seul enfant. Le chiffre du matin, c'est 6000.
Oui, c'est ça, 6000 naissances de moins que de décès. Un solde naturel négatif donc, et c'est uniquement grâce aux migrations que la population française continue d'augmenter légèrement. 2025 est donc marqué par une hausse des décès, 651 000 au total d'après l'INSEE. L'an dernier, la grippe a été particulièrement meurtrière et puis la population vieillit, les enfants du baby-boom ont aujourd'hui plus de 80 ans. Mais en parallèle, il y a un autre phénomène, de moins en moins de bébés, et ce, alors qu'il y a autant, voire même un peu plus de femmes en âge de procréer. Ce qui recule depuis 2010, c'est l'indice de fécondité, 1,56 enfants par femme. L'INSEE note qu'il faut remonter à la Première Guerre mondiale, 1918, pour trouver un niveau de fécondité aussi faible. Plusieurs raisons possibles, le réchauffement climatique, l'inflation, la guerre en Ukraine, mais au-delà de ça, on devient parent de plus en plus tard, 31 ans en moyenne pour les femmes, et puis le désir d'enfant, visiblement, il se tarit. Les grandes fratries ont moins la cote et certains hommes et femmes ne veulent pas d'enfants du tout.
Alors, illustration de ce nouvel état d'esprit chez les jeunes parents, ce couple, Alice, que vous avez rencontré à Pantin, près de Paris, et qui assume le choix d'un enfant unique.
Il s'appelle Joachim et à 6 ans, ce matin, c'est son papa qui l'emmène à l'école.
On a formé un petit cocon, on est trois et finalement, ça facilite quand même beaucoup de choses. On a des emplois du temps qui sont très chargés, on bosse beaucoup tous les deux. L'idée de finalement d'avoir qu'un enfant, c'est un peu imposé, quoi.
Les deux parents aspirent à un certain confort, un équilibre entre vie professionnelle et familiale, explique Johanna, devenue mère à 39 ans.
Enfin, moi j'adore être mère, j'adore la maternité. Mais j'adore mon travail, j'adore mon couple, j'adore moi-même. Donc je trouve que c'est avoir un enfant, c'est un bon équilibre où je peux être une mère présente, je peux sortir avec mes amis, je peux voyager toute seule. Et du coup, j'arrive à jongler tout ça sans me sentir coupable que je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas fait cela.
Pas de frère ni sœur, mais le petit Joachim reçoit souvent des copains à la maison.
Parfois, on dort tous les deux ici sur le sol avec un matelas.
On essaie aussi de ne pas faire que ça soit un enfant gâté ou super protégé, donc il va beaucoup vers le monde.
Le modèle de l'enfant unique est de moins en moins marginal en France. D'après l'Institut national d'études démographiques, en 20 ans, la part de personnes ne voulant qu'un seul enfant est passée de 12 à 18%.
Alice Cachaner, et on en reparle à 13h30 avec nos invités sous l'angle du recensement, puisque ces chiffres de l'INSEE se basent sur le recensement annuel qui débute après-demain. L'actualité à l'étranger, toujours dominée par les manifestations anti-régime qui secouent l'Iran depuis deux semaines. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit à l'instant qu'elle veut des sanctions rapides après un nombre horrifiant de victimes. Le pouvoir iranien, qui fait donc face aux menaces européennes, on l'entend, mais aussi aux menaces de Donald Trump. Le président américain a annoncé hier soir des droits de douane en hausse de 25% pour les pays qui continueraient à commercer avec l'Iran. Dans son viseur, la Chine, premier partenaire commercial de l'Iran et qui achète notamment son pétrole, malgré les sanctions qui visent Téhéran. Ce matin, la Chine dit qu'elle sauvegardera ses intérêts. Bonjour Sébastien Verriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Pékin. La Chine ne tremble pas vraiment face à ces menaces américaines.
Alors pour bien comprendre la fermeté exprimée ce matin par la Chine, il faut se rendre dans la province côtière du Shandong, face au Japon, où se trouvent là-bas les principales raffineries qui reçoivent le pétrole iranien. Pour contourner les sanctions internationales imposées à Téhéran, la Chine utilise de toutes petites usines indépendantes, déconnectées du système financier international. Dans un contexte économique qui est déjà difficile pour la Chine, Pékin a besoin de ce pétrole iranien pour faire tourner son économie. Il est d'abord de bonne qualité, mais surtout moins cher, ce qui permet aux Chinois de faire chaque année des milliards d'euros d'économies. Pas question donc, malgré de possibles droits de douane américains, de renoncer à ce système. Il faut dire que les menaces commerciales de Donald Trump ne font font plus vraiment peur ici en Chine. On a vu que, après des mois de bras de fer l'année dernière, Donald Trump a finalement fait profil bas en acceptant un accord commercial. Et à Pékin, on pense que les États-Unis ne prendront pas le risque de compromettre cette trêve, même si la Chine continue de faire des affaires avec les Iraniens.
Sébastien Berriot à Pékin pour Inter. Ce matin, le réalisateur iranien Jafar Panahi, palme d'or du dernier festival de Cannes et condamné dans son pays, a choisi France Inter pour prendre la parole et il l'a fait pour rappeler que le peuple iranien est sans défense et qu'il a besoin de soutien.
Ce régime, il est déjà détruit, en fait, au niveau économique, politique, culturel, même idéologique. Hier, quand j'étais sur le point d'aller au Golden Globe, sur le chemin, ma traductrice m'a montré une vidéo. Et quand j'ai vu tous ces corps, ces morts par terre, là, on a compris que le régime veut complètement faire une vraie répression sur le peuple. Quand un régime utilise en fait des armes de guerre face au peuple, c'est-à-dire pour faire un bain de sang, ce n'est pas juste pour faire en sorte que les gens rentrent chez eux. C'est pour ça que le peuple a besoin que la communauté internationale les aide et les soutient, en fait.
Jafar Panahi, actuellement aux États-Unis et au téléphone ce matin sur Inter, de Benjamin Duhamel. Dans la bande de Gaza, il y a toujours des victimes civiles, malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël en octobre. C'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui le dit ce matin. Selon l'UNICEF, plus de 100 enfants ont été tués à Gaza depuis le cessez-le-feu. Cela représente environ un garçon ou une fille tuée chaque jour pendant ce cessez-le-feu, a dit ce matin depuis Gaza son porte-parole. C'est une photo et une image étonnante. Un train de marchandises qui a presque entièrement déraillé. Cela se passe dans la Manche, près de 40 ans, pour une raison à ce stade inconnue. C'était dimanche, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a des conséquences pour le trafic qui est interrompu au départ de Cherbourg. Impossible de rejoindre Caen par le train ou encore Paris. Le trafic est toujours très perturbé et on ne sait pas quand il va reprendre, Tristan Barraud.
Des experts nationaux de SNCF Réseau ont été envoyés sur place pour constater les dégâts. L'heure est au diagnostic, aux photos de cet impressionnant convoi en dehors des rails, nous dit-on. Ces agents tentent en parallèle de comprendre ce qu'il s'est passé. Parce que c'est très flou pour l'instant, on attend les premières conclusions demain. Il va falloir ensuite évacuer ce géant des rails. Imaginez, c'est un train à marchandises qui fait 640 mètres de long, 17 wagons chargés de 34 containers. Il ne transporte rien de dangereux, mais ce type d'évacuation est extrêmement rare. Elle va mobiliser l'une des deux seules grues capables de le faire en France. Enfin, le groupe ferroviaire sait déjà qu'une fois les voies dégagées, eh bien les travaux seront considérables pour sécuriser les rails. Des centaines de mètres de voies et des caténaires sont dégradés. Alors vous l'avez compris, la reprise du trafic paraît loin pour l'instant. Impossible donc de savoir combien de temps toutes ces étapes vont prendre. On reste très prudent à la SNCF. On préfère seulement nous dire qu'il va falloir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Tristan Barraud, ici Cotentin, pour ses précisions. Toujours en Normandie, à Bayeux, c'est le grand déménagement. En ce moment, une partie de la commune est en train de se déplacer à destination de Caen, où aura lieu ce soir le dernier match des 16e de finale de la Coupe de France de football. Bayeux, Régional 1, 6e division française, face à l'Olympique de Marseille. Le défi est considérable. 20 000 Normands vont pousser derrière les joueurs de Bayeux, mais aussi ceux qui sont restés dans la commune, habitants sportifs et commerçants, qui font corps derrière leur équipe, Jean-Pierre Blimeau.
Jennifer habite Bayeux. Cette mère de famille ne va jamais au foot, mais cette fois, elle a pris ses dispositions.
Et oui, j'ai posé une journée pour aller voir ce fameux match. Je voulais absolument y aller, donc je profiterai en famille.
Dans la même rue, Mathis se promène avec une veste aux couleurs du club. il espère un exploit.
Je sais que Marseille, ils ont des démons dans le sens où ils se sont déjà fait sortir par des plus petits clubs, comme Canet-Roussillon. Donc pourquoi pas faire l'exploit, ça serait vraiment incroyable.
Et voilà qu'on ne parle plus seulement de Bayeux pour sa tapisserie ou pour les cérémonies du débarquement, se réjouit Sylvain, patron du Café Cuillère.
C'est un peu nouveau, malgré tout, Bayeux a toujours été une ville très sportive. Je pense que ça donne une image très positive de la ville, qui effectivement diffère du côté historique et autres, mais on est avant tout des habitants de la ville. Enfin, on ne vit pas dans le passé, nous on vit dans le présent. Hein.
Dans les vitrines, on voit d'ailleurs des drapeaux et des affiches qui ont été distribuées par l'Union des commerçants. Deux joueurs apparaissent même sur le fronton de l'hôtel de ville avec des photos géantes. L'un des deux est le capitaine Grégoire Delain.
C'est un pote qui m'a envoyé ça, je me suis dit, ouais, il a dû faire un montage ou quelque chose, mais après, 15 minutes après, j'ai reçu 10 ou 15 messages et je me suis dit, ah, là, ouais, ils l'ont vraiment fait. Quoi.
La municipalité a pourtant choisi de ne pas mettre en place d'écran géant, préférant que les habitants se rassemblent dans les bars ou les restaurants de la ville.
Reportage Jean-Pierre Blimaud. L'équipe de France de handball va devoir faire sans son demi-centre Nedim Remili pour participer à l'Euro. Qui débute dans deux jours, il est forfait, blessé au mollet gauche. Et puis une histoire maintenant, une histoire de famille qui se passe à Aigues-Vives, en Haute-Garonne. Nous sommes au sud de Toulouse. Un grand-père, Jean, il a 81 ans, aime se balader dans les champs avec son petit-fils qui lui a 11 ans et il se prénomme Alexandre. Et puis un jour, il découvre sous une bosse, à côté d'une rivière, de drôles de galets. Ces galets ont été expertisés par les archéologues de la Direction régionale des affaires culturelles et ils ont pu établir qu'il s'agissait de galets sculptés et datés au paléolithique il y a plus de 450 000 ans. Alexandre en est réjoui.
Marcher, balader dans les champs, à un moment j'ai regardé par terre et j'ai vu un caillou et je l'ai montré à mon père. Il m'a dit que si on ne trouve pas ce genre de caillou, ici, il y avait quelque chose de spécial, quoi. On a pris du temps tous les deux pour chercher. On cherchait. Quand on en trouvait, c'était comme une victoire. J'étais content parce que je me suis dit, chaque chose qu'on trouve, c'est quelque chose de plus pour notre histoire. Ça m'a fait penser à un film, Indiana Jones. Je suis un fan d'histoire et donc ça m'a encore plus poussé vers l'histoire.
Indiana Jones a un successeur et il vient de Aigues-Vives en Haute-Garonne. Et on le sait grâce à Ici Occitanie, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, toutes vos questions sur le recensement. La campagne 2026 débute après-demain. 24 000 agents vont venir frapper. Peut-être chez vous, on va tout vous expliquer. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton avec les secours en montagne et les gendarmes du PGHM de Briançon. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Jérôme.
On ne vous avait pas entendu. Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien Jérôme, de Lauquirec dans le Finistère à Montfaucon dans le Gard en passant par Paris, je vous parle des cabines de téléconsultation médicale.
Oui, on en parle beaucoup en ce moment avec la grève des médecins notamment. Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Elle est également autrice et metteuse en scène. Il s'agit de Mathilda May, dont le nouveau spectacle Code des histoires des vies se joue à partir de ce soir à la Grande Halle de la Villette. Et avec elle... C'est un morceau de Marvin Gaye que nous écouterons, du funk, l'une de ses grandes passions.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
France Inter, 14h. Mathieu Vidard.
Ce mardi, la folie des jardins anglais, faussement sauvages, les jardins de nos voisins outre-Manche, suscitent une passion dévorante. Sylvie Neil, professeur de civilisation britannique, nous raconte l'histoire de ces jardins.
La Terre au carré.
Tous les jours à 14h sur France Inter.
France Inter présente
La lutte enchantée
de Cyril Dion.
Comment garder espoir et agir face au péril écologique ? Dans ce livre, je vous parle de désobéissance civile, de démocratie, d'algorithmes, de plastique, mais aussi de poésie, de santé mentale et d'amour. Parce qu'ensemble, on peut encore changer les règles du jeu.
La lutte enchantée de Cyril Dion, un livre France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Une journée plutôt calme et lumineuse.
Et ça n'est pas le ciel souvent voilé qui va gâcher ce petit air de printemps dont on profite en général. En Corse, le soleil brille généreusement avec tout juste un léger voile par moment. Seules deux régions résistent aux percées du soleil, les bords de Manche avec des pluies éparses, un peu plus durables de la Bretagne au Cotentin, et puis les bords de la Méditerranée jusqu'en vallée du Rhône où le ciel est bien chargé par des entrées maritimes toute la journée, apportant des pluies sur les Cévennes. Le vent est aussi de la partie sur la plupart des régions, il souffle sur la péninsule bretonne, entre 50-60 km par heure, 60-80 sur le sud Aquitaine, le massif central et la vallée du Rhône jusqu'au Val-de-Saône, et presque 80-100 km par heure sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne.
Et la douceur est de mise.
Les maximales s'échelonnent entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, entre 12-17 degrés dans le sud, jusqu'à 18-19 dans les Pyrénées-Atlantiques. Il fera 10 degrés à Gap, Verdun et Colmar, 11 à Beauvais, Manosque et Épinal, 12 à Brest et Paris, 14 à Montfaucon dans le Gard, 15 à Toulouse, Châteauroux et Grenoble, jusqu'à 21 degrés à Biarritz.
Merci Stéphanie Fromentin, 13h29.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Muriel Barlet.
Bonjour.
Vous êtes la chef du département de la démographie à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, et vous êtes en charge du recensement. Comptez le nombre d'habitants dans notre pays et pouvoir dire dans quelle commune ils résident, mais bien d'autres choses encore que vous allez nous expliquer. La campagne 2026 débute donc après-demain, jeudi. On va voir ensemble quelle est la méthode, quelles sont les questions et à quoi ça sert. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à nous appeler pour poser vos questions. 01 45 24 7000. Vous passez également pour vos messages via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Muriel Barlet, d'abord une réaction sur l'information de la matinée, puisqu'on parle de démographie, un peu plus de 69 millions de Français, ça c'est le chiffre que vous avez communiqué il y a quelques heures, mais surtout l'année dernière, davantage de décès que de naissances dans notre pays, vous dont la démographie est la spécialité, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, c'est historique. Vous pouvez nous expliquer à quel point, pour qu'on comprenne bien la portée de ce qui se passe ?
Effectivement, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que le solde naturel est négatif. Il y a eu 6000 décès de plus que de naissances en 2025. Donc la hausse des décès, elle est liée au vieillissement de la population et la baisse des naissances est liée essentiellement à la baisse de la fécondité.
C'est essentiellement dû, les courbes se sont croisées, c'est comme ça qu'on dit, c'est essentiellement dû à la baisse, voire à l'effondrement des naissances, je ne sais pas quel mot est le plus adapté.
Eh bien, disons que la hausse des décès, elle était attendue, puisqu'on sait que la population vieillit, les personnes du baby-boom entrent dans les âges avancés, donc c'était prévisible. La baisse des naissances, ce n'est pas une surprise, hein, parce que ça fait plusieurs années que les naissances baissent, mais effectivement, chaque année, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants moyens par femme, diminue.
Quelle est la tendance, avant de parler du recensement, quelle est la tendance ? Est-ce qu'on est dans une baisse continue encore de la natalité dans notre pays ? Est-ce que le nombre de naissances continue de s'affaisser ? Ou bien est-ce qu'on voit des signes, peut-être, d'un changement dans les prochains mois ?
Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une baisse des naissances qui a été particulièrement marquée après le Covid. Mais en fait, cette baisse, on la voit depuis 2010.
Elle est continue depuis 2010, accélération avec le Covid. Et donc cette inversion, enfin en tout cas ce croisement des courbes ce matin historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela, on le sait en raison du recensement, hein, Muriel Barlet, c'est là d'où viennent vos données. Ce recensement est tournant depuis 2004, ça fonctionne par échantillon. Donc cette année, 8000 communes sont concernées. C'est ça, comment est-ce que vous procédez ?
Alors c'est ça, cette année, comme chaque année, 8000 communes sont concernées. Donc ce n'est pas la même méthode suivant la taille des communes. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu une fois tous les 5 ans. Et l'année où la commune est recensée, c'est tous les habitants de la commune qui sont recensés.
Donc là, il y en a combien ?
Donc il y en a 7 000.
7 000
comme
cette
chaque année,
année
il y en a 7 000.
Et là, on va recenser les 7 000. Il faut trouver les 7 000.
Alors, c'est les mêmes qu'il y a 6 ans, parce que c'est les mêmes qu'en 2020. C'est toujours les mêmes groupes de rotation. Donc elles vont être recensées complètement cette année. Et puis, dans les communes de plus de 10 000 habitants, là, il y a une partie du recensement qui est fait chaque année, puisqu'on procède par sondage et chaque année on tire 8% des logements. Et c'est ces 8% de logements qui vont être recensés.
Tout cela, c'est hors Mayotte ?
Oui, effectivement, à Mayotte, suite au passage du cyclone Chido, il a été décidé exceptionnellement de faire un recensement exhaustif. Donc à Mayotte, c'est toutes les communes et tous les habitants qui sont concernés. Et comme c'est une opération de plus grande ampleur, elle a démarré plus tôt, puisque le recensement à Mayotte a démarré le 27 novembre et il est pratiquement terminé.
Donc on ne sait pas combien il y a d'habitants pour l'instant à Mayotte, c'est en cours ?
Non, on n'a pas encore effectivement les résultats. Il y a encore 10% de logements à recenser. Et puis, quand l'enquête est finie, c'est pas fini pour l'INSEE, parce qu'après, il y a quand même de nombreux contrôles et de nombreuses opérations qui sont encore effectuées.
Ça veut dire que ça concerne la métropole, mais ça concerne tous les territoires d'outre-mer, à l'exception donc de Mayotte, hein.
Tous les territoires sont concernés. Il y a juste un petit décalage de calendrier pour la Réunion qui, chaque année, démarre le recensement un peu plus tard pour être plus cohérent avec les dates de vacances scolaires.
Quels sont les questionnaires qu'on a à remplir ?
Alors, il y a un questionnaire qui est en trois parties. Il y a d'abord des questions sur le logement qui va permettre de décrire la taille des logements, si on en est propriétaire, les moyens de chauffage qu'on va utiliser. Ensuite, il y a le cœur du recensement qui est vraiment la liste des habitants du logement avec les liens de parenté entre eux, ce qui va permettre de décrire les familles, de savoir combien de gens vivent en colocation. Et enfin, il y a un questionnaire individuel que tout le monde remplit avec des questions sur l'origine, sur le diplôme, sur l'emploi ou encore sur la situation vis-à-vis du handicap.
Individuel mais anonyme. J'écris pas mon nom sur le formulaire.
Alors, si, sur le formulaire du recensement, il y a les noms et prénoms. Ça sert, en fait, pour contrôler la collecte, s'assurer qu'on a bien recensé tout le monde. Mais par contre, ces noms et prénoms ne sont pas conservés dans les bases de données de l'INSEE. Ils sont supprimés. Et surtout, la finalité du recensement, c'est une finalité uniquement statistique. À aucun moment, les données du recensement ne peuvent servir à des contrôles, que ce soit administratifs ou fiscaux.
On remplit un formulaire en ligne, comment ça fonctionne ?
Alors la plupart des gens vont répondre en ligne, on est à plus de 70% de réponses en ligne au recensement. Donc à partir de jeudi, les agents recenseurs vont déposer dans les boîtes aux lettres ou vous remettre en main propre des notices avec des codes d'accès qui vont vous permettre de vous rendre sur le site Le Recensement et moi. Et vous pourrez y répondre au questionnaire et ça prend à peu près 15 minutes pour une famille.
Mais ça veut dire que je remplis quand même mon nom sur le questionnaire en ligne, mais derrière, automatiquement, il est supprimé.
Une fois que les données de collecte ont fini d'être traitées, oui, il est supprimé.
Alors, on voit ce que vous collectez. Maintenant, on va voir comment. 24 000 agents, c'est ça, Muriel Barlet. Ce sont les communes qui les recrutent ?
Ce sont les communes qui sont responsables de la collecte du recensement. L'INSEE organise et contrôle. Et effectivement, les agents recenseurs, ce sont des agents des communes.
Des agents des communes où ils peuvent faire appel à des partenaires extérieurs aussi ?
Depuis l'année dernière, il y a la possibilité de recourir à des prestataires. Et donc, il y a La Poste qui s'est positionnée sur ce sujet. Et effectivement, depuis quelques années maintenant, les agents recenseurs peuvent être des facteurs.
Je ne sais pas comment vous avez été recrutée, vous. Bonjour Marine Astier.
Bonjour.
Marine, vous avez 27 ans, vous êtes photographe, vidéaste indépendante, vous habitez près de Limoges et vous allez être employée dans les prochains jours, ça va durer un mois je crois, c'est ça, hein, dans la commune de Boisseuil, c'est tout près de Limoges. Comment est-ce que vous avez été recrutée Marine ?
Alors, j'ai vu une offre d'emploi et je lui ai passé un entretien auprès de la mairie de Boisseuil et voilà, donc c'était un entretien d'embauche assez classique. Le but dans le recrutement d'agents recenseurs, c'est de recruter des gens qui vont être disponibles, qui vont avoir du temps pour le dédier à la collecte. Mm-hmm. Donc majoritairement, souvent, c'est des personnes qui sont retraitées. Alors moi, je le suis pas, mais en l'occurrence, on peut adapter. Ça va être aussi quelqu'un qui va aimer aller vers les gens. Mm-hmm. Faut aimer aller au plus près des gens, être prêt à donner de sa personne, parce qu'on va beaucoup marcher aussi. Donc, faut aimer tout ce qui est extérieur. C'est une période qui est assez compliquée en termes de temps. Je veux dire, en termes de météo.
Il y avait un peu de neige dans votre région la semaine dernière.
C'est ça, il faisait assez froid, mais ça se fait bien.
C'est donc la commune qui vous emploie, Marine ?
C'est ça.
On exactement. Peut connaître votre salaire pour un mois de travail ?
Alors, c'est à peu près payé au SMIC. C'est compté comme un 28 heures. Donc, je dirais pour un mois de travail, on va dire peut-être 2000 euros.
Pourquoi est-ce que vous le faites ? Au fond, il y a peut-être le fait de gagner de l'argent, évidemment, mais pas seulement, d'autant que je crois que ce n'est pas la première fois.
Alors moi, c'est la deuxième fois où je le fais. Ouais. Je l'avais fait sur la commune d'Aix-sur-Vienne, qui est aussi très proche de Limoges.
Ça vous a plu, visiblement ?
Ça m'a parlé, en tout cas. Moi, je suis, comme vous avez dit, je suis photographe et vidéaste indépendante. Le mois de janvier, c'est pas la période la plus propice pour le travail. Tout ce qui est entreprise, c'est déjà passé et les mariages, c'est pas encore là. Donc, pour moi, c'est une période qui est assez intéressante. Et je trouvais que c'était un travail qui avait aussi beaucoup de sens, dans le sens où on sert quand même, on sert la ville dans laquelle on vit. Mmh. Et l'objectif, en fait, du recensement, c'est surtout de beaucoup de gens pensent que faut pas, enfin, qu'ils ont pas envie de répondre ou autre.
Ouais.
Mais en fait, l'objectif du recensement, c'est pour aider les citoyens, pour avoir une meilleure vie locale.
Vous allez nous dire, Marine, comment vous êtes accueillie, en tout cas lors de votre première expérience. Je voudrais d'abord qu'on donne la parole à l'une de nos auditrices. C'est Michel. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Vous êtes à Paris. Nous vous écoutons.
Oui, je voulais savoir, quand on est absent de sa résidence principale où on est recensé, pourquoi on ne nous envoie pas un papier pour remplir ce recensement, plutôt que la personne qui fasse le recensement se permette de prendre des informations dans les environs, les voisins ou les gens de...
Ça vous est arrivé, Michel ? On a demandé à vos voisins au lieu de vous demander ?
Oui, ça m'est arrivé deux fois.
Deux fois, d'accord. Merci pour votre question. Marine Assier, est-ce que vous faites ça ? Vous allez chez les gens ? Il n'y a personne ? Vous n'avez pas d'informations ?
Des fois, on a du mal à avoir des réponses, à savoir si les personnes habitent, si la maison est vacante, si c'est une maison secondaire. Donc, effectivement, on est un petit peu obligé d'aller demander aux voisins. Après, le but, c'est d'être le moins intrusif possible, évidemment.
Mais on demande si les voisins sont là ou pas. On ne leur demande pas des informations pour remplir le formulaire à leur place.
Pas du tout.
Muriel Barlet, sur ce point, c'est sécurisé. Personne d'autre ne peut remplir le formulaire à notre place.
Non, effectivement, chaque logement répond pour lui-même. C'est confidentiel. Hein. Tout le monde et toutes les personnes qui participent au recensement, que ce soit côté INSEE ou côté commune, sont soumises au secret professionnel. Ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, quand dans un logement, on n'obtient pas de réponse, on demande au voisinage de savoir si c'est une résidence principale
ou pas. Est-ce que
quelqu'un
habite ici ?
Et le nombre d'habitants.
Quel est l'accueil, Marine Astier ? Est-ce que les gens, quand vous tapez à leur porte, sont un peu craintifs ? Ils se demandent qui vient les voir ? Ou bien peut-être il y a des gens qui ont besoin de parler ? Aussi, racontez-nous.
On a un peu de tout. Moi, l'an dernier, j'ai quand même été agréablement surprise parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et finalement, on a plutôt des gens plutôt accueillants. Il y a 2-3 personnes évidemment qui sont un peu plus réticentes, hein, mais la plupart des gens sont plutôt accueillants. On va avoir peut-être quelques personnes âgées quand on arrive un peu tard qui vont avoir peur parce que taper à 20h ou à taper à 18h, ça peut faire un petit peu peur.
Il fait nuit.
Mais voilà, il fait nuit, ils veulent pas forcément ouvrir. Et du coup, là, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de les rassurer. On a des cartes d'agents recenseurs qui sont délivrées, qui nous permettent de certifier qu'on est agent recenseur.
Et ça, c'est important. Muriel Barlet, je reviens vers vous, parce qu'il y a aussi des escrocs, des gens qui se prétendent comme étant agents recenseurs et qui ne le sont pas. Il y a des cas chaque année.
Oui, chaque année, on peut avoir des cas de fraude. C'est-à-dire, donc, ce qui est important, c'est de savoir c'est que le recensement est gratuit. Hein. Si vous avez une notice qui vous amène sur un site payant, c'est certainement pas la notice officielle. Bien poser des questions à sa mairie en cas de doute. Et puis, normalement, si vous êtes recensé cette année, vous avez déjà été informé par votre commune qui vous aura déjà mis un courrier dans votre boîte aux lettres. L'agent recenseur a une carte, il est nommé par arrêté municipal. Le visuel des questionnaires du recensement peut être retrouvé sur le site Le Recensement et moi. Et surtout, en cas de doute, contactez sa mairie et c'est gratuit.
Et malgré l'assurance de l'interlocuteur que vous avez en face de vous, parce que parfois ces gens-là font preuve de beaucoup de toupet aussi et beaucoup de culot, donc n'ayez pas de crainte et de doute de prendre votre téléphone pour vérifier. Est-ce que vous avez le droit d'aider les gens, Marine Assier, à remplir le formulaire s'ils ont un peu de difficulté, s'ils sont un peu perdus?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est que la plupart des personnes puissent se répondre tout seules. C'est aussi pour ça qu'on répond par Internet. Mais par contre, si des personnes n'ont pas Internet ou n'arrivent pas ou ne comprennent pas, nous, on peut les accompagner pour pouvoir répondre. Le but, c'est d'avoir les réponses les plus claires possibles, en tout cas, à la fin.
Alors, 7000 communes de moins de 10 000 habitants concernées par le recensement cette année, plus toutes celles qui font plus de 10 000 habitants. Fabienne, vous allez vous opérer à Hendaye, c'est ça ? Bonjour, Fabienne.
Bonjour.
Vous nous appelez du Pays Basque ?
Baye et Gounam.
Très bien, 2 communes.
En Baye, une commune.
Ah, une seule commune.
On est 18 000 habitants.
Très bien, comment ça
et
se passe
pour... recenseur.
Comment ça se passe pour vous ? C'est la première fois ou pas du tout ?
Non, c'est la sixième.
La sixième fois ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité, Fabienne ?
comme l'a résumé un petit peu la jante précédente, le contact, l'autonomie, on se débrouille tout seul, et puis être dehors, à faire du vélo et à trouver les petits coins reculés de notre commune.
Dans la campagne qui arrive, vous avez des consignes particulières ?
Non, les mêmes comme d'habitude.
Comme d'habitude. Merci pour ce témoignage, Fabienne, en direct d'Andaille, pour cet appel. Muriel Barlet, il faut dire que c'est obligatoire, quand on est recensé, de remplir.
Le recensement, effectivement, c'est une opération qui est obligatoire, mais les agents recenseurs font tout un travail de conviction pour expliquer en quoi c'est vraiment important de répondre au recensement. Et c'est ce travail qui nous permet d'avoir un très bon taux de réponse, puisqu'on a 96% des habitants qui répondent au recensement.
À quel moment on se dit, Marine Astier, je reviens vers vous à Limoges, à quel moment on se dit, bon ben là, c'est pas possible. Combien de fois est-ce que vous pouvez passer chez les gens pour avoir une réponse ?
Je dirais 3-4 fois à peu près.
3-4 fois, ouais.
Parce qu'on a quand même beaucoup de logements, donc l'idée c'est de les relancer, mais quand même de chercher à avoir des réponses. Après, quand on n'a pas de réponse, nous on revient vers nos coordinateurs en mairie et on essaie de voir pour quelles raisons on n'a pas de réponse ou des agents de la mairie vont être envoyés vers les particuliers.
Alors, il nous reste un peu plus d'une minute, Muriel Barlet, pour que vous nous expliquiez à quoi ça sert. Alors, savoir qu'il y a maintenant un peu plus de 69 millions de Français et de personnes qui vivent en France, on ne recense pas que les Français, hein, d'ailleurs.
C'est toutes les personnes qui résident en France.
C'est ça, qui résident en France. Donc, pas uniquement les Français, il n'y a pas uniquement cela. On demande cette année, c'est une nouveauté, je crois, où sont nés les ascendants ?
C'est une question qui est posée depuis l'an dernier, où effectivement, il y a une question sur le lieu de naissance des parents qui a été
introduit des parents
l'an dernier.
Pour quelle raison on demande ça ?
Alors, le questionnaire du recensement, comme tout questionnaire d'enquête statistique, fait l'objet de nombreuses concertations. Et donc, on a eu des demandes de nos utilisateurs d'ajouter cette question dans le questionnaire du recensement, notamment de la part, par exemple, de la Défenseure des droits. Et l'objectif de cette question, c'est à la fois de mesurer l'origine géographique des personnes, comment, au fil des générations, les gens vont changer de région, par exemple, mais c'est aussi de mesurer des phénomènes de ségrégation au niveau local, par exemple, des ségrégations sur le marché de l'emploi ou des ségrégations sur le marché du logement.
Ségrégation ou discrimination sur le lieu de naissance des parents. Je vous pose cette question parce que certaines associations et syndicats ont vu dans cette demande fait une possible inégalité de traitement de l'État. C'était les mots d'une tribune signée entre autres par la Ligue des droits de l'homme.
Alors cette question, elle a fait débat avant d'être introduite, mais le consensus a été en faveur de cette question pour ce qu'elle pouvait apporter. Donc c'est des procédures, comme toutes les procédures qui ont été validées par la CNIL. Et au final, le consensus, c'est qu'elle a été ajoutée comme une question facultative.
La Commission nationale informatique et liberté. Merci Muriel Barlet d'être venue nous en parler aujourd'hui, chef du département de la démographie à l'INSEE. Je vous souhaite bon courage Marine Astier pour votre recensement à Boisseuil près de Limoges qui débute après-demain comme dans des milliers de communes en France. Vous interveniez grâce à Ici Limousin, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton dans les Alpes jusqu'à vendredi avec les secours en montagne. Les pilotes d'hélicoptères de la section aérienne de gendarmerie ainsi que les secouristes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon. La mort de 6 skieurs hors piste le week-end dernier nous rappelle l'importance de leur mission. Et aujourd'hui, nous accompagnons notre reporter Erwan Chassin dans l'hélicoptère de la gendarmerie. C'est une mission non pas de secours mais judiciaire.
Ouais, dis-nous.
Ouais, elle est solide. On a une demande de Grenoble pour une mission judiciaire dans le Vercors.
Ouais, c'est jouable.
C'est un corps qui est en bas de la falaise.
D'accord.
J'ai pas toutes les infos. Si ça te va, je prends tout et puis on engage.
On fait ça.
Super, merci.
Bonjour, je m'appelle Maxime Poisdemain. Je suis pilote hélicoptère en gendarmerie, dans les forces aériennes de gendarmerie. J'ai 37 ans, je travaille à la section aérienne de gendarmerie de Briançon. Je suis issu à l'origine de l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT, dans laquelle je suis rentré en 2008 en tant que pilote hélico dans les armées. Et j'ai basculé au bout de 7-8 ans en gendarmerie.
Je vous dis du Chouka 05 en départ mission, on part pour l'Isère, on vous rappelle sur le retour.
On nous a sollicité aujourd'hui malheureusement pour extraire le corps d'une jeune femme qui s'est suicidée. Et vu l'emplacement, en fait, l'accessibilité est trop difficile pour accéder à pied, donc l'évacuation ne peut se faire que par hélicoptère.
Eh ben écoute Max, on se présente, on vient de repérer le point là, on va treuiller Boris, seul. La hauteur de treuillage, on a dit au-dessus des arbres environ 25 mètres, ouais, on est à 25 mètres.
Le PGHM c'est une entité, la gendarmerie, un peu comme peut y avoir le GIGN, et nous on est les forces aériennes de gendarmerie. Donc en fait on est une force propre à la gendarmerie, aéronautique, donc avec les moyens hélicos, et on travaille pour le PGHM, mais aussi pour le GIGN, pour la gendarmerie départementale, la mobile, pour du maintien de l'ordre, pour des enquêtes, voilà.
Dans l'axe 30, ok, objectif perdu à toi. Objectif perdu, je prends. Dans l'axe 20, ok. Allez, 10, 7.
On est un couteau suisse de la gendarmerie, mais par exemple, nous, on travaille une semaine sur deux avec le PGHM, et l'autre semaine, on travaille avec la CRS Alpes, donc la police nationale, voilà. Et on fait le même travail, mais avec deux corps différents pour faire du secours. C'est bien plus qu'un simple job et on le fait à cœur. Puis on a tous à cœur le service public.
Ok, 18 okay. Chouka, et ben écoute, on est posé, on va couper et puis on reste à l'écoute pour la suite de la journée.
Salut, je suis l'adjudant Thomas Jaillet. Je suis mécanicien de bord treuilliste au sein des forces aériennes de la gendarmerie nationale et affecté à la section aérienne de gendarmerie de Briançon. Donc au sol, on s'occupe de l'entretien de l'hélico. Et ensuite, on a un second rôle, qui est le rôle du mécanicien de bord à bord de la machine. Et dans ce cas-là, eh ben, écoute, on seconde le pilote dans tout ce qui est gestion des missions. Et puis ensuite, il y a une autre phase encore durant le vol, qui est la phase de treuillage, où là, d'un seul, on devient les yeux du pilote, puisque lui, durant les phases de treuillage, en fait, il perd la cible au sol de vue. Et le pilote, qui nous fait confiance à 100%, en fait, il écoute nos directives et puis il dirige la machine comme on lui demande. Alors, les périodes pendant lesquelles on a le plus de boulot, finalement, c'est l'été, principalement. En fait, il y a tellement d'activités qui sont faisable en montagne l'été, que finalement ça multiplie les risques de blessures et nos interventions. Voilà. Cet été, moi j'ai vu des journées, même des semaines, à entre 10 et 15 secours par jour. Donc on a des missions qui sont extrêmement variées, mais qui sont toujours au profit de la population. Voilà, et c'est un métier satisfaisant. Quand on rentre chez soi le soir, on a vraiment la satisfaction d'avoir accompli des choses importantes, quoi.
Une semaine en haute montagne avec les gendarmes. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de cabines.
Et je vous emmène, Jérôme, à Lokirec, 1500 habitants dans le Finistère, où une cabine de téléconsultation vient d'être installée dans la pharmacie à la demande de la municipalité. Alors sur cette borne, on trouve les équipements médicaux de base, stéthoscope, tensiomètre, dermatoscope, thermomètre, oxymètre de doigts, otoscope. Sauf, Jérôme, qu'ils sont manipulés par les patients eux-mêmes. Même devant un médecin souvent situé à des centaines de kilomètres et qui apparaît à l'écran. Cette initiative est en lien avec le cabinet infirmier, détaille la pharmacienne à Ouest-France. Il s'agit de proposer un service rapide et de proximité pour pallier le manque de médecins. Au comptoir, nous ne pouvions pas répondre à toutes les demandes concernant certaines pathologies et bobologies d'urgence. Alors, ces appareils ont évidemment reçu l'agrément des autorités sanitaires et la consultation coûte 25 euros contre 30 euros minimum en cabinet avec un médecin généraliste en chair et en os.
Je précise que l'otoscope, c'est l'instrument qu'on utilise pour regarder dans nos oreilles. Combien existe-t-il de ces cabines en France, Cyril ?
Entre 5000 et 6000, m'a indiqué Jean-Pascal Piermet, le président de les entreprises de télésanté, la fédération du secteur. 90% sont situés dans des pharmacies, mais on en trouve aussi dans des cabinets d'infirmiers et centres médicaux. D'autres sont installés dans des mairies, comme à Montfaucon dans le Gard ou à Saint-Léger-de-Montbrun dans les Deux-Sèvres. On en trouve même une à la station de métro Opéra à Paris, ou dans des gares, comme à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Et ce matin, la SNCF m'a confirmé son projet d'ouvrir 300 boxes dans les gares d'ici à 2028. Alors, oui. Il y a aussi des supermarchés qui ont tenté l'expérience sans grand succès de leur côté.
Bon, ça n'a pas fonctionné dans les supermarchés. Mais depuis quelques jours, ces cabines connaissent une forte activité.
Oui, en général, il y a 1 à 2 patients par jour, me dit le président des entreprises de télésanté. C'est peu, mais des pics de consultation ont toujours lieu entre mi-décembre et mi-janvier. Les raisons, grippe et congé des généralistes. Mais cette année, ça joue
s'ajoute la grève de médecins libéraux depuis le 5 janvier qui protestent notamment contre le nouveau budget de la sécurité sociale. Alors, qu'en pensent les habitants de ces cabines? Eh bien, un pharmacien d'Angers dans le Maine-et-Loire répond à Ouest France: ce qui plaît, c'est la rapidité. On peut prendre rendez-vous le matin, même pour l'après-midi, c'est du dépannage. Elle est utilisée en cas de maux de gorge, d'infection urinaire ou un renouvellement de contraception par exemple. Pour les pathologies plus importantes, le professionnel conseille de se rendre dans un cabinet.
Et qu'en pensent les médecins?
J'ai appelé le docteur Luc Duquesnel, président du syndicat Les Généralistes CSMF, je le cite. On n'a pas une opposition de principe, mais dans beaucoup d'endroits, on n'a pas cherché à savoir s'il y avait un réel besoin. Ces cabines sont aussi un symptôme de l'hyper-consumérisme de soins. Même son de cloche pour le docteur René-Pierre Labarrière du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Selon lui, ces cabines peuvent rendre service, mais pas n'importe où, et seulement si un professionnel de santé est à côté. Mais il faut être bien conscient des limites, car ce sont des consultations dégradées avec des examens qui durent parfois 3 ou 4 minutes. On ne peut pas tout diagnostiquer. Fin de citation. Il met aussi en avant l'importance de la territorialité, c'est-à-dire de pouvoir transformer la consultation en réel si nécessaire. Mais encore faut-il avoir assez de médecins. Rappelons que plus de 85% du territoire métropolitain et ultramarin peut être aujourd'hui qualifié de désert médical.
Merci Cyril Petit du journal Ouest France pour ce sujet ô combien d'actualité. De ces La France, c'est une chanson, c'est la comédienne, autrice et metteuse en scène Mathilde Amé qui est à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
À partir de ce soir, son spectacle Cut des histoires des vies se jouera à la Grande Halle de la Villette, son sixième spectacle en tant qu'autrice et metteuse en scène. Et c'est d'un titre de Marvin Gaye qu'elle a souhaité parler, un morceau qui a totalement bouleversé sa vie.
Je dois avoir 13 ou 14 ans, et pour resituer un petit peu le contexte, je suis issue d'une famille de mélomanes. Et à la maison, on n'écoute que de la musique classique. Ma mère est danseuse classique, moi je le suis aussi, et donc je baigne dans la musique classique du matin au soir. Et un jour, je vais tout simplement faire mes courses au Monoprix, et là, j'entends un rythme qui me prend, je n'arrive même pas à analyser ce qui se produit physiquement dans le corps, mais quelque chose se produit de l'ordre de la reconnaissance. Et j'ai l'impression qu'un monde est en train de s'ouvrir, un monde qui me parle comme si j'en faisais partie depuis toujours. Et quand je suis dans ce supermarché, j'ai l'impression que tout s'efface, il n'existe plus que la musique qui me transperce, mais vraiment dans la chair. Mais je me souviens être restée figée dans le magasin un long temps à comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que c'était que ce rythme hyper envoûtant? Et vraiment, moi, j'étais en transe toute seule dans le Monoprix. Donc, c'est un souvenir très marquant, puisqu'à partir de là, je suis entrée en religion, quoi.
En religion.
En religion.
Soul et funk.
Soul funk, oui.
1084 2093, light years ahead, you and me gonna be getting down on a space bed.
Ce morceau de Marvin Gaye, Frédéric, c'est A Funky Space Reincarnation.
Il est sorti en 1978 et quand Mathilde Amé a découvert que c'était ce morceau-là qu'elle avait entendu en faisant les courses, parce qu'au début elle ne savait pas du tout ce que c'était, eh bien elle l'a partagé avec tout son entourage.
Pendant des années et encore aujourd'hui, j'oblige les gens à écouter des choses. Donc à partir du moment où je me suis mise à découvrir cette couleur musicale, j'avais à cœur de la faire connaître à tout le monde, puisqu'à l'époque la musique circulait pas de la même manière, et donc vraiment je me souviens très bien d'avoir ramené des États-Unis le premier album de Lenny Kravitz et de l'avoir fait écouter absolument à tout le monde. Et il y a beaucoup de DJ à Paris qui l'ont passé parce que je leur ai demandé de le faire. Et j'étais mais complètement hantée en permanence par ces sons. Et je suis devenue vraiment quasi spécialiste de la soul, de la funk. Les disquaires me voyaient arriver, mettaient des disques de côté, mais... C'est probablement aussi parce que j'ai eu la chance d'être éduquée avec une musique exigeante qui m'a vraiment ouvert les oreilles et qui m'a permis d'être à l'affût comme je l'ai été.
Marvin Gaye, aujourd'hui, continue d'habiter votre appartement, d'habiter vos oreilles ?
Oui, il est toujours présent parce que c'est une grande voix. C'est aussi un message politique de paix qui, je trouve, toujours d'actualité. Donc c'est à la fois un pionnier, un révolutionnaire sur le plan de discours et sur la classe absolue de sa musique qui était à la fois très entraînante, très entêtante un peu et vraiment avec beaucoup de facilité. On a l'impression que ça vient tout seul, c'est fluide. Let's pass the test. All that you test around. Stop. Well, it's been a fantastic trip, baby. Y'all cut it out. Not even out of it.
Yeah. Qu'est-ce que vous avez de funky, vous, en vous?
Je suis le funk. Il y a un pote qui est décédé, qui était un très grand batteur, Félix Sabaleko, qui m'appelait Matt Funk. C'était mon surnom. Parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi, compte tenu de mon éducation, c'est vraiment surprenant que je sois absolument aussi fan de cette couleur particulière qui est la funk et la P-funk, plus encore que la soul.
Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez acheté finalement ce jour-là, dans ce Monoprix ?
Je ne me souviens pas de ce que j'ai acheté ce jour-là, mais je me souviens très bien du premier 45 tours que je me suis acheté de ma vie. Et je trouve que c'est assez signifiant et je suis assez raccord avec moi-même, puisque c'était Chic le Freak.
Du funk.
Encore une fois.
Funky Space Reincarnation. C'est toujours moi qui dis les titres en anglais, je vous en veux beaucoup, Frédéric Pommier.
Ah bon ?
Marvin Gaye, c'était le choix de Mathilde Amé.
Mathilde Amé, dont le spectacle Code des Histoires des Vies se donne jusqu'à samedi à la Grande Halle de la Villette à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme de la Terre au Carré aujourd'hui ?
Eh bien nous allons parler de la passion des Anglais pour leur jardin.
Et encore en anglais. À tout de suite.